Chapitre 3, deuxième partie. Quand M. de Francalin arriva à Paris, une fantaisie nouvelle s'était emparée de Valentin. Il le trouva dans son entresol de la rue de la Victoire, en train d'essayer un uniforme tout bas en neuf de capitaine de la garde nationale. « Quel est ce déguisement ?» dit Georges. « Que parles-tu de déguisement ?» s'écria Valentin. « Ne sais-tu pas que la société est en péril ? Il est temps que les hommes de cœur s'arment pour défendre l'ordre et la famille. » Un domestique qui cogna timidement à la porte interrompit la philippique de Valentin. Il apportait une lettre dont un cachet de cire parfumé fermait l'enveloppe couverte d'azur. « Ah ! De Juliette !» s'écria le défenseur de la famille. Il lut rapidement la lettre. « Bon, c'est bien, j'irai, » dit-il. « Tu vois, » reprit-il après que le domestique se fut retiré, « ne m'appartient plus. Dans une heure, inspection. Ce soir, prise d'armes, et il y a une première représentation variété où j'ai promis d'aller. » « Ah, toi, tu ne me quittes pas, hein. Si tu veux, je te fais nommer lieutenant. » Comme beaucoup d'hommes préoccupés de choses qui leur sont personnelles, Valentin s'enquérait fort peu de celles qui intéressaient son ami. Il entraîna Georges aux Champs-Élysées, où sa compagnie paradait, et le contraignit à le suivre à l'hôtel de ville, où il était de garde le soir, et le mena souper au café anglais. Au bout de 3 jours, M. de Francalin fut las de cette existence tapageuse et partit pour Beauvais. Madame la baronne Alice Augustine de Boisfleury était bien telle que Georges l'avait représentée. Elle occupait un vaste hôtel dans une des plus belles rues de la ville et y recevait avec de grands airs le monde le plus distingué du chef-lieu. Quand son neveu arriva, elle était à sa toilette. « Priez, monsieur le comte, mon neveu, dit-elle, de m'attendre dans le boudoir. » Ce titre de comte qu'elle donnait à monsieur de Francalin était de son invention, mais elle le tenait pour authentique. Si, l'armorial de France à la main, on avait voulu lui prouver que Georges n'y avait aucun droit, elle aurait déclaré tout net que l'armorial de France était un sot et ne s'y connaissait pas. À bout d'argument, Georges la laissait dire. Madame de Boisfleury parut bientôt, un éventail à la main, et dans l'attitude qu'elle aurait prise pour une présentation à la cour. Elle tendit sa main, monsieur de Francalin, qui la baisa. Oh, « Je vous remercie de votre empressement, bon beau neveu, » dit-elle. « Il me prouve que vous êtes tout prêt à faire ce que j'attends de vous. » Georges sourit. « Ah non, je ne crois pas, belle tante, » dit-il. « Bien plus même, j'ai grand-peur que la race des Francalin expire avec moi. » Madame de Boisfleury agita son éventail, comme Madame la Duchesse de Châteauroux aurait pu le faire quand un ministre du roi hésitait à lui accorder ce qu'elle demandait. « Mademoiselle de Valpierre dire ce soir à l'hôtel, vous la verrez, » reprit-elle. Mademoiselle de Valpierre s'assit en effet à la table de la baronne et passa la soirée à l'hôtel où quelques personnes firent un peu de musique et jouèrent au whist jusqu'à minuit. C'était une grande jeune fille, blonde, qui avait l'air très doux. Georges causa pendant quelques minutes avec elle. Quand il n'y eut plus personne au salon, la baronne montra à son neveu un fauteuil voisin de celui qu'elle occupait. Ah, « Eh bien, dit-elle, comment la trouvez-vous ? » « Oh, suffisamment jolie et parfaitement bien élevée. Léonard de Valpierre a 19 ans et tient aux familles les plus considérables de la Picardie. Elle a de plus une fortune personnelle qui dépasse 400 000 francs. Oui, c'est fort beau. Alors, si tel est votre avis, je n'ai plus qu'à demander sa main, votre nom. Elle ne me sera pas refusée. « Embrassez-moi, mon neveu, et dormez bien. » Monsieur de Francalin embrassa Madame de Boisfleury et ne remua point. Ma chère tante, reprit-il, vous ne voudriez pas me conseiller de commettre une vilaine action? Eh bien, celle d'épouser mademoiselle de Valpierre serait fort laide. Mademoiselle de Valpierre est faite pour être aimée, et je sens que je n'ai pas le cœur au mariage. Mais que signifie ce langage, voyons, parlez clairement. Georges prit entre ses mains les deux mains de sa tante. Vous souvient-il d'un temps où un écolier, qui pouvait bien avoir 16 ans, vint passer les vacances dans un beau château tout au bord de l'Oise, à quelques lieues d'ici? Madame de Boisfleury rougit très fort. Mais quel rapport, voyez-vous, entre ce château et ce qui se passe en ce moment? Dit-elle. À cette époque-là, poursuivit Georges, sans répondre directement à l'observation de la baronne, il y avait dans le château une femme qui était dans tout l'éclat de sa beauté. Oh, c'était moins une mortelle qu'une déesse. L'écolier qui vivait auprès d'elle était à peu près dans l'âge de chérubin. Il en avait toutes les agitations. La personne qu'il voyait à toute heure fondait en un seul amour tous ces amours divers que le page de la comédie éprouvait pour la comtesse, pour Suzanne, pour Fanchette. Il avait les tressaillements subits quand il rencontrait sa main. Il ne pouvait la voir et l'entendre sans pâlir ou rougir. Quel trésor n'avait-il pas amassé de bouts de rubans, de fleurs un instant caressés par elle, de gants perdus? Comme il les embrassait quand personne ne pouvait le surprendre. Un soir, au soir lumineux et d'impérissable mémoire, il la rencontra seule dans un jardin. Elle avait une robe blanche et les bras nus. Elle venait de perdre une rose qu'on voyait flotter à la surface d'un ruisseau. Quel doux mouvement pour l'atteindre et quel léger cri! Elle fit signe à l'écolier qui d'un bond saisit la fleur et la lui présenta. Mais à la vue de tant de grâce, animée comme embellie par la course, il eut comme un éblouissement. « Ah, je vous aime !» s'écria-t-il en couvrant ses mains et ses bras de baisers brûlants. « Georges, » dit-elle. À ce moment, la fièvre de l'écolier tomba. Il devint pâle et s'échappa en courant. Le lendemain, il n'osait regarder celle qu'il avait offensée. Cependant, il rencontra ses yeux. Il y avait dans leur douce clarté plus d'intelligence que de colère. Et puis, il tremblait tant. Ah, si pour elle il eût fallu se jeter sous la roue d'un moulin, il s'y serait précipité tête baissée. Eh bien, ce qu'il éprouvait alors, cet écolier, à présent qu'il a l'âge d'homme, il l'éprouve encore. Mais un autre sentiment a remplacé le sentiment qu'il ne pouvait ni combattre ni avouer. Georges raconta alors à Madame de Boisfleury toute son histoire sans rien omettre et sans rien cacher, avec cette chaleur et cet entraînement qui imposent l'attention. Tout son cœur débordait. Peu de femmes restent insensibles à l'expression d'un amour jeune et sincère, même lorsqu'ils n'y sont pas engagés. Georges était assuré de la sympathie de celle qui l'écoutait. Son émotion eut comme un retentissement dans le cœur de Madame de Boisfleury. « Alors pourquoi êtes-vous venu ?» demanda la baronne. « Oh, j'étais si malheureux !» Toute bouleversée, Madame de Boisfleury prit la tête de Georges entre ses mains et l'embrassa sur le front avec un élan où une nuance de tendresse indéfinissable se mêlait à l'expression de l'amour maternel. « Eh bien, dit-elle, qu'il ne soit plus question de mademoiselle de Valpierre ni d'une autre. Si vous épousez Madame Rose, vous me la conduirez et je l'aimerai. Si vous êtes malheureux, vous pleurerez près de moi. » Madame de Boisfleury n'avait jamais oublié l'épisode auquel M. de Francalin avait fait allusion. Cette fougue, ce transport, ce cri qu'il venait de rappeler, l'avait remué jusqu'au fond des entrailles. Sincèrement attachée à ses devoirs, elle n'avait jamais rien laissé paraître de cette émotion qu'elle avait combattue et dominée. Mais sa rigidité en avait été amollie et c'était comme un point lumineux de sa vie vers lequel sa pensée la reportait souvent. De ce jour-là, elle était devenue la meilleure amie de Georges et la plus dévouée. Elle avait en quelque sorte remplacé la mère qu'il n'avait plus, mais de loin et secrètement pour ne pas s'exposer à une nouvelle secousse. Elle avait même enveloppé sa vive et profonde affection de formes graves et méthodiques et d'une sorte de solennité qui la préservait du danger des épanchements. C'était elle qui, à l'insu de Georges, prenait soin de sa fortune, la réparait quand elle était compromise, et veillait à ce que rien ne menaçât le repos d'une existence qu'elle voulait rendre heureuse. Veuve depuis 3 ou 4 ans et plus âgée que Georges de 8 ou 10, Madame de Boisfleury avait eu la pensée de le rapprocher de Beauvais par un mariage qu'elle-même aurait préparé. À son insu peut-être, et tout en songeant au bonheur de Georges, elle avait fait le choix d'une femme que sa beauté ou sa supériorité intellectuelle ne pouvait pas rendre redoutable. Non pas qu'elle désirât revenir en rien sur le passé, mais parce qu'elle voulait rester la première dans le cœur de Georges. Un mot avait renversé tout cet échafaudage et ses longs projets. Certes, Madame de Boisfleury n'avait pas entendu l'aveu de cet amour si violent sans un déchirement secret qui avait rajeuni son cœur en le faisant saigner, mais elle avait noyé cette émotion jalouse sous un flot de tendresse épurée et la femme s'effaça devant la mère quand elle embrassa Georges sur le front. Georges demeura chez sa tante quelque temps, s'efforçant de ne plus penser à Madame Rose et y revenant sans cesse. Mais cet éloignement dans lequel il avait cherché un soulagement irrita bientôt sa blessure au lieu de la guérir. Beauvais était pour lui comme le bout du monde. Au moins à Paris avait-il la chance de rencontrer Madame Rose. Elle n'avait plus rien à lui demander, à présent qu'il avait cédé à son désir et bien compris que tout mariage lui était impossible. Il lutta quelques jours, mais son angoisse devenant de plus en plus vive, il prit prétexte d'une lettre d'affaires pour retourner à Paris, où son premier soin fut de s'informer de Tambour, qu'il y avait laissé sous la surveillance de Jacob. Tambour n'était plus au logis. Dès le premier jour, il avait pris la fuite. Jacob l'avait fait afficher sans succès. À bout de recherche, l'idée lui était venue de courir à Malmaison. Tambour s'y promenait. Tout le monde l'y rencontrait du matin au soir. Il avait les mœurs errantes d'un outlaw. Une nuit, il dormait chez Madame Rose et le lendemain chez Canada. Il rendait visite aussi à Petroni, qui gardait la Maison Blanche. Jacob désespérait de le ramener à Paris. Il voyait bien, disait-il, que Tambour avait des intelligents dans le pays. « Heureux Tambour !» murmura Georges, et il donna ordre qu'on le laissât tranquille. Valentin avait été prévenu du retour de Georges. Il se hâta de l'introduire dans les boudoirs où il avait ses libres entrées. À cette époque, la fièvre révolutionnaire, communiquée par les événements de février et qui avait fait explosion aux journées de juin, n'était point calmée encore. On sentait dans la ville comme le frisson du vent sur la mer. Le lendemain n'était jamais sûr. On vivait au jour le jour. Mais cette agitation n'empêchait pas qu'on ne cherchât les plaisirs avec la même ardeur qu'au temps de la plus grande sécurité. Il y avait même une certaine excitation produite par l'imprévu qui donnait à ces plaisirs une saveur plus vive et plus séduisante. Georges se laissa faire, mais la lassitude et l'ennui s'asseyaient partout à côté de lui. Son seul bonheur était de se promener la nuit, seul sur les boulevards, et de revoir en esprit la maison d'Herblay, la grande prairie où l'ombre des peupliers se jouait, la forêt de Saint-Germain, les canaux sous les saules, et dans cette campagne si souvent parcourue, l'image d'une femme svelte et souriante qui lui tendait la main. Le tumulte des événements et le cri des passions déchaînées faisaient moins de bruit à son oreille que le doux murmure d'une voix mystérieuse qui parlait tout bas dans son cœur. Il entendait qu'elle dans Paris, au milieu de ce tumulte et de ce choc quotidien des hommes. Il était seul. Quelquefois, il s'étonnait du long silence que gardait Madame Rose. Était-elle toujours à Herblay? Se pouvait-il qu'elle l'oubliât à ce point? Il rentrait précipitamment chez lui et cherchait une lettre. La lettre n'arrivait jamais. Alors aussi, l'idée de l'inconnu, qui deux ou trois fois avait rendu visite à Herblay, revenait le poursuivre. Si dans ces moments-là, tout à coup, la générale eût battu, Georges se fût élancé avec joie pour mourir à l'assaut d'une barricade. Pouvait-il douter en effet qu'un mystère n'existât dans la vie de Madame Rose? Et ce mystère ne se rattachait-il pas à cet étranger qu'il n'avait jamais vu? Valentin, qui aimait sincèrement Georges, ne comprenait pas que les amusements de toutes sortes auxquels il le conviait n'eussent aucune action sur sa tristesse. Un soir, las de lui verser du vin de champagne, Valentin prit Georges à part. « Écoute, lui dit-il, il faut que ça finisse. Casse-moi la tête si tu veux, tu m'empêcheras pas de te parler de Madame Rose. » « Parle, répondit Georges. Bien un jour que tu étais plus triste qu'un tombeau. L'idée me vint d'aller à Herblay. Oh, je me souvenais parfaitement de Madame Rose pour l'avoir vue au temps où nous portions des feuilles à nos chapeaux. Je ne savais pas bien ce que je voulais lui dire, mais tu me faisais pitié. » Georges serra la main de Valentin. « Oh, attends, reprit celui-ci, tu me remercieras tout à l'heure. Bon, j'arrive donc à Herblay et je monte la côte, fort en peine de mon discours. Si elle a un petit bras de cœur dans la poitrine, pensais-je, elle va me dire de lui amener Georges. » Une voix de femme me fait lever la tête. Je regarde, c'était Madame Rose. Elle marchait au bras d'un grand jeune homme qui avait des moustaches noires et qui fumait. « Ah !» dit Georges. Oh, n'en voulut pas voir davantage, et je redescendis la côte sans plus songer à mon discours. Bien, voilà ce que j'avais à te dire. À présent, mange et bois, et n'y pense plus. Tu dis à un grand jeune homme? Oui, avec des moustaches noires et un cigare. Merci. Georges était d'une pâleur de mort. Il remplit son verre de vin de champagne et le vida d'un trait. Il riait beaucoup, mais Valentin, malgré son étourderie, ne fut pas la dupe de cette gaieté. « Hé, tu bête !» lui dit-il, « tu as la fièvre, va te coucher !»« J'ai peut-être eu tort de te conter cette histoire. »« Non, » dit Georges, « non, cela m'a fait du bien. » Pendant 2 heures, Georges resta étendu sur son lit, les yeux ouverts. Il pleurait comme un enfant. Au petit jour, il n'y tint plus et courut au chemin de fer de la rue Saint-Lazare. Un convoi partait pour Rouen. Il s'y jeta et s'arrêta à Maison. 5 minutes après, il avait traversé le pont et cherchait Herblay des yeux. À mi-côte, un chien courut à sa rencontre et faillit le jeter par terre en sautant sur lui. C'était Tambour qui aboyait de toutes ses forces. Il faisait 1000 bonds en tournant autour de son maître. Ils arrivèrent ainsi à la petite maison d'Herblay. La porte était entr'ouverte. Tambour la poussa et Georges le suivit Jusque dans le petit salon, Madame Rose avait reçu une première fois. Un jeune homme était assis dans un fauteuil auprès de la fenêtre. Il lisait un journal. À la vue de Georges, il se leva et salua. Georges remarqua qu'il avait des moustaches noires. « Mais c'est donc vrai !» pensa-t-il. Tambour, qui ne se tenait pas de joie, allait et venait par la chambre. Après chaque tour, il frottait son museau contre la main pendante de Georges. Les deux jeunes gens se regardaient. Un demi-sourire passa sur les lèvres de l'inconnu. « À la pantomime de ce chien, je vois bien que vous êtes son maître. Veuillez vous asseoir, monsieur, je vous prie, » dit-il avec la plus grande politesse. Comme Georges appuyait sa main sur le dos d'un fauteuil sans répondre, la porte du salon s'ouvrit de nouveau et Madame Rose parut. Elle était un peu plus pâle qu'au temps où Georges l'avait quittée. À son aspect, elle eut comme un léger tressaillement, mais, se remettant presque aussitôt, « Monsieur Georges Franck-Alain, dont je vous ai parlé quelquefois, » dit-elle en se tournant vers le jeune homme aux moustaches noires. Et, désignant celui-ci à Georges, « Monsieur le comte Olivier de Rethel, mon mari, » ajouta-t-elle. La présence de Monsieur Olivier de Rethel, ce mari qui mettait à néant toutes les espérances de Monsieur de Franck-Alain, lui fit cependant éprouver comme un sentiment de joie. Madame Rose ne perdait rien de cette auréole dont il l'avait entourée, et restait elle qu'il l'avait aimée. Georges ne pensa pas une minute à repartir pour Paris. Si douloureuse que lui fût la vue d'un étranger qui avait tous les droits d'un maître dans cette maison où si longtemps il avait été seul, qu'était-ce en comparaison de ce qu'il avait craint? Tout cédait devant cette pensée rafraîchissante qu'il pouvait aimer Madame Rose sans rougir. Chez certaines âmes délicatement douées ou élevées à un niveau supérieur par de grandes passions, la connaissance d'un malheur irréparable cause moins de souffrance que la perte d'une de ces croyances dont les racines sont au cœur. Georges, que M. Olivier de Rethel retint à déjeuner avec une parfaite aisance, rentra chez lui, sinon heureux, du moins calme. Une barrière infranchissable existait entre Madame Rose et lui, mais l'image adorée avait la même pureté et le même rayonnement. Georges n'hésita pas à retourner chez Madame Rose dans la journée. Elle lui fut reconnaissante de cet empressement qui donnait à leur relation le caractère d'une intimité honnête et franche. M. de Rethel, qui avait beaucoup à écrire, les laissa seuls. Mais il ne le fit pas avant d'avoir causé quelques instants avec M. de Franck-Alain. Il avait en toute chose une rare élégance et les manières simples du meilleur monde, avec une certaine brusquerie qui n'était pas sans originalité. Quand Madame Rose se trouva seule avec Georges, ils se promenèrent autour de la maison et descendirent dans le pays pour voir la Thibaut des Jeanne, sur qui Madame Rose veillait toujours. La petite fille avait le visage vermeil comme une pomme. Elle se jeta dans les bras de Madame Rose avec cette familiarité qui succède si vite chez les enfants de la campagne à une timidité farouche. Tout allait bien dans ce ménage, dont la vue rappela à M. de Franck-Alain les premières paroles échangées avec Madame Rose auprès d'un berceau. La Thibaud remercia Georges des secours qu'il avait envoyés à Jeanne malgré son absence. C'était encore une attention de Madame Rose qu'il associait à sa vie. Il n'était donc pas un étranger pour elle. Il ne voulut pas détromper la Thibaude pour rester l'obligé de Madame Rose. Quand ils sortirent, la jeune femme prit le bras de Georges comme au temps passé. Mais se peut-il que je sois si tranquille auprès de vous après ce que j'ai vu ? Dit monsieur de Francalin, tandis qu'il côtoyait la rivière. Mais pourquoi ne le seriez-vous pas ? Ce que j'étais hier pour vous, ne le suis-je pas aujourd'hui ? Répondit madame Rose. Qu'y a-t-il changé entre nous ? Georges lui pressa doucement le bras. Mais, reprit-il, pourquoi m'avez-vous laissé partir sans me dire la vérité ? Mais le pouvais-je, sans vous dire le nom de mon mari ? Répondit madame Rose. Il y avait dans cet aveu inévitable comme un blâme dont j'avais l'instinct, et que je ne me croyais pas en droit de faire subir à celui dont je porte le nom. Bon, je ne m'explique peut-être pas bien, essayez de me comprendre. Mais, reprit Georges, quel motif a donc ramené M. de Rethel auprès de vous ? Quand et comment est-il arrivé ? A-t-il le projet de vivre dans la retraite ou l'intention de vous conduire à Paris ? Pardonnez-moi toutes ces questions, et n'y voyez pas autre chose que le sentiment profond que m'inspire une personne en qui je ne verrai jamais que Madame Rose, quel que soit le nom qu'elle porte. Me le permettez-vous ? Ah, mais je fais mieux, je vous en prie. Il me semble que j'aurai moins à craindre auprès de vous, à présent que vous connaissez la vérité. Eh bien, parlez-moi de M. de Rethel. Vous savez quel rôle il a joué pendant la dernière révolution et quelle place il tient dans le parti qui s'agite toujours. Le repos est insupportable à un tempérament aussi terrible. Toutes les agitations dans lesquelles il m'a fait vivre chez lui ont été la cause de notre séparation. Il s'y replongea fatalement. Son passé engage son avenir. Il était à Paris dans ces derniers temps. Souvent, il m'écrivait, et vous n'avez certainement pas oublié l'état dans lequel me mettaient ces lettres dont l'origine vous était inconnue. Pouvais-je m'éloigner quand tous les jours il était en péril de mort ? Je suis sa femme, et je n'ai pas à le juger. Vous savez cependant comment j'oubliais tout. Quelquefois, je me berçais de l'illusion que cette vie, dont j'avais contracté la douce habitude à Herblay, pourrait durer. Et tout à coup, une lettre nouvelle m'arriva au moment où je venais de trouver sur ma fenêtre un bouquet, laissé par vous après un jour passé sans vous voir. M. de Rethel m'appelait à Paris pour me prévenir que peut-être il serait contraint de me demander asile au premier moment. « Si vous êtes menacé, venez, lui dis-je. » Alors je compris alors qu'il fallait cesser de vous voir. C'est pourquoi je vous pressais de partir. Je n'avais rien à me reprocher, mais j'avais peur de votre désespoir. Et un soir, il y a de cela 8 jours, M. de Rethel a frappé à ma porte. Il ne m'a plus quitté depuis ce moment. 2 ou 3 personnes sont venues le trouver. Il reçoit beaucoup de lettres et il a l'air très préoccupé. Quelque chose se prépare que je ne connais pas. Il m'a déjà prévenu qu'il me quitterait un de ces jours, tout à coup. Ce qu'il projette me fait peur. Olivier s'agit dans un enfer. Il y a des heures où je le plains amèrement. Madame Rose détourna la tête pour essuyer ses yeux. Son émotion était visible. Et Georges la comprenait. Le nom de M. Olivier de Rethel avait suffi pour expliquer à Georges la situation de Madame Rose. Le comte était l'un des chefs reconnus d'une des fractions militantes de la démocratie. Issu d'une famille d'ancienne noblesse, Olivier avait rompu avec son passé et brisé un à un tous les liens de la tradition, de l'habitude, de l'éducation. Patricien, il combattait avec la plèbe. Fils d'un pair de France, il était un des instruments les plus actifs des sociétés secrètes. Il avait d'incontestables qualités qui mettaient sa personnalité en relief, un certain talent de parole, une grande bravoure, de l'audace. Le prestige de son nom lui donnait en outre un éclat, une autorité qu'à mérite égal ses amis n'avaient pas. Seulement, le tribun était resté gentilhomme, et s'il touchait la main des pamphlétaires les plus fougueux, il mettait des bonnes vernis pour aller au club. « Comprenez-vous à présent, continua Madame Rose, pourquoi j'avais une telle hâte de vous voir loin de moi? Quel pouvait être le résultat de votre présence à Herblay? N'eussais-je pas mérité la confiance que mon mari mettait en moi, que la liberté où il me laissait m'aurait imposé le devoir de la justifier? Et qu'allez-vous faire à présent? Dit Georges. Et le sais-je? C'est un événement inconnu qui en décidera. Si j'en crois certains indices, oh, cet événement ne tardera pas à éclater. Il peut se faire alors que j'aille à Beauvais. À Beauvais ? Répéta Georges d'un air tout surpris. Ah, vous ne savez donc pas qu'une de vos parentes est venue me voir il y a près d'un mois. Elle m'a mis au fait du motif de sa visite en quatre mots. La conversation n'était pas finie que Madame la baronne de Boisfleury et moi nous nous entendions à merveille. Elle est restée trois jours et m'a embrassé en partant. Elle m'a dit de me souvenir dans l'occasion que j'avais une amie à Beauvais, et je m'en souviendrai. Il m'a semblé qu'elle m'aimait beaucoup à cause de vous, et un peu parce qu'elle a su que j'étais comtesse. Georges sourit à ce mot qui lui fit voir que Madame Rose avait pénétré Madame de Boisfleury d'un regard. « Je devrais peut-être vous dire de partir, » reprit-elle en regagnant sa maison. « Et cependant, je désire que vous restiez. »« Eh bien, » dit-il, « je resterai jusqu'à ce que vous alliez à Beauvais. » À ces mots, Madame Rose, qui était sur le pas de sa porte, retint Georges par la main. « Il ne faut pas que vous vous mépreniez au sens de mes paroles, » reprit-elle. « Tout ce qu'une honnête femme peut tenter, je le tenterai pour amener M. de Rethel. Il est auprès de moi, il est menacé, je porte son nom. C'est plus qu'il en faut pour m'indiquer un devoir auquel j'ai la volonté de ne pas faillir. Ne soyez donc pas surpris si quelque jour vous apprenez que je pars pour l'Amérique et pour toujours. » « Le ferez-vous sans m'en prévenir ? Oh, vous ne le croyez pas ! » dit-elle avec vivacité. L'accent de cette voix chérie fit tressaillir Georges. Il vit bien que le cœur n'était pas du côté de la volonté, mais que celle-ci reste, bien que celle-ci restât maîtresse. Il ne prolongea pas l'entretien et se retira, à la fois triste et charmé. Comme M. de Francolin suivait la rivière, cherchant un bateau qui pût le conduire à la Maison-Blanche, il rencontra Canada qui achevait d'assujettir la porte d'une cabane dont il avait pêché tous les matériaux, pièce à pièce, dans la Seine. Canada jeta son marteau et accueillit Georges par une vigoureuse poignée de main. Puis il jeta un coup d'œil du côté d'Herblay et le reporta vers M. de Francolin. Oh, je vois à votre air que vous savez ce qui se passe là-bas. Ça m'a surpris tout de même le jour où cet autre est revenu. Dès que je l'ai vu, je me suis dit que vous ne tarderiez pas à paraître. À présent que vous avez fait votre visite, vous allez filer, j'imagine.
Non, non, je reste, répondit Georges.
« Comme ça vous tient ? On voit bien que vous avez des rentes. Si vous fallait, comme moi, chercher dans l'eau votre dîner de tous les jours, vous auriez bien vite noyé l'amour. »
Canada acheva d'assujettir la porte sur ses gonds.
« Je la reconnais, cette porte, reprit-il. Elle provient d'un gros bateau qui allait à Rouen et qui a donné contre une pile du pont ici près, alors je l'ai pêché. »
Il fit un signe à Georges tout en cherchant des clous dans une caisse.
« Approchez-vous donc qu'on vous parle, » ajouta-t-il. « Tout marin d'eau douce que je suis, comme ils disent, j'y vois clair.
Il y a une bourrasque dans le temps. Monsieur de Paris, qui est chez Brabrose, oh, il le sait bien, lui. Toutes sortes de gens vont et viennent par ici. Moi, qui suis pour ceux d'en bas contre ceux d'en haut, depuis l'affaire des lapins, vous savez, je rends de petits services dans l'occasion. S'il y a un bon avis à donner, c'est moi qui le fais passer. Tenez, vous allez voir. Canada siffla et Tambour entra dans la cabane. Le pêcheur tira de sa poche un papier, l'attacha au collier du chien et le lâcha. Tambour partit comme un trait. « Mais c'est pas plus difficile que ça, » continua-t-il. « Dans un quart d'heure, on saura chez Malabrose que des gens à mine suspecte rôdent dans le pays depuis ce matin. » Bon, ce que j'en fais, c'est autant pour elle que pour lui. À part le profit que j'en tire, je voudrais pas qu'elle fût inquiétée. On se jette guère aujourd'hui pour vous mettre la main sous le collet pendant la nuit.
Sérieusement, craignez-vous quelque chose ? Dit Georges, que les confidents de Canada étonnaient un peu.
Canada regarda autour de lui en jouant du marteau et fit un mouvement de tête affirmatif. « Dame, dit-il, tout est possible. S'il plaît aux hommes de se faire casser la tête, vous comprenez, ça les regarde. Mais il faut pas que Palabrose en souffre.
S'il arrivait quelque chose, me préviendriez-vous, demanda M. de Francalin.
« Oh, sur le champ, et sans penser au dérangement qui pourrait résulter pour moi. »
Georges rentra chez lui, l'esprit tout plein de ce que Canada lui avait dit. Ce qu'il avait pu voir de l'état de Paris pendant le séjour qu'il y avait fait ne lui laissait aucun doute sur la possibilité d'un mouvement. Il prévoyait bien que M. Olivier de Rethel en serait l'un des principaux instigateurs et il tremblait que Mme Rose ne ressentît le contre-coup de ces nouvelles perturbations. Vers le soir, et poussé par un sentiment plus fort que la réflexion, il retourna à Herblay. Madame Rose était assise dans ce même salon où si souvent il l'avait trouvée. Elle brodait près de la fenêtre. Monsieur de Rethel lisait une brochure. Tambour leur dit bonjour à tous deux à sa manière, c'est-à-dire en promenant son museau sous leurs mains, et disparut par une porte. « Faites comme Tambour, dit le comte en se levant. « Et chez moi, agissez, comme si vous étiez chez vous. » Georges prit une chaise et s'approcha de la fenêtre. Il faisait un temps clair et doux. Un vent léger agitait le feuillage comme un frisson. Mille cris d'oiseaux s'échappaient de la campagne, dont les crépuscules estompaient les derniers plans. Olivier posa la brochure qu'il tenait à la main et regarda du côté de la rivière, où l'on entendait le chant de quelques mariniers. Madame Rose, qui s'était levée, appuya un doigt sur son épaule.
« Me trompais-je, dit-elle, en pensant que cela vaut bien une discussion politique ?»
Le comte sourit. « Oh, c'est autre chose, répondit-il. » Ici, c'est le repos, ailleurs, c'est l'agitation, mais c'est aussi la vie.
Eh bien, marchons, reprit-elle en passant son bras sous celui du comte avec un geste mignon.
Ils descendirent tous trois vers les bords de la Seine. Tambour allait et venait autour d'eux, cherchant querelle aux bestiaux qui regagnaient le village et se mêlant au jeu des enfants. Le bruit de quelques coups de marteau qui retentissaient dans le silence les attira du côté de la cabane de Canada. Le pêcheur remplaçait de vieilles planches par des ais tout neufs.
« Ils sont allés à la dérive, dit-il en ôtant son bonnet. Je n'ai pas voulu qu'ils fussent perdus.
Canada, mon ami, vous sauvez trop de choses. Prenez garde, dit Madame Rose.
« Bon, on a bon pied et bon œil, » répondit le bohémien.
Il était tout au haut d'une échelle et enfonçait les clous à tour de bras. Mais du coin de l'œil, il regardait alternativement Georges et M. de Rethel. Sa femme raccommodait de vieux filets aux dernières lueurs du soleil couchant. « Dites donc, mon brave, dit M. de Rethel, si l'on vous amenait à la ville avec la promesse d'une bonne condition, vous ne manqueriez de rien. Viendriez-vous ?
« Oh, quelles conditions ? » demanda Canada. « Faudrait voir. »«
Oh, vous auriez la pièce blanche tous les matins, la soupe à midi et point de nuit à passer sur l'eau. »«
Oh, vous m'en direz tant. Je pourrais bien accepter. Mais tout de même, la rivière me manquerait. Il ne me faudrait pas être surpris si un beau matin j'y retournais. » « Quand on en a l'habitude, la pluie qui vous mouille, ça fait pas de mal. »
Le comte regarda sa femme. « Vous l'entendez, dit-il à mi-voix, le pli est fait. » À ce moment, une voix grêle appela Canada, et on aperçut, sur le chemin de halage, un enfant qui tenait une pièce de bois attachée au bout d'une corde.
« Eh, c'est le petit Jacques, dit le pêcheur. »
Il courut vers l'enfant et l'aida à tirer la pièce de bois jusqu'à la cabane. Le front du petit était baigné de sueur. Il portait un paquet sur la tête et s'était passé la corde autour du corps pour marcher plus commodément. Il s'essuya le visage du revers de la main et s'assit un instant sur la pièce de bois.
« Ben, c'est un accord que nous avons fait entre nous, » dit Canada. Toutes les fois qu'il trouve quelque épave au bord de l'eau, il me la porte, et à mon tour, je lui raccommode ses lignes et lui arrange ses petits filets. Oh, ça sera un homme, allez !»
Jacques repoussa la crinière de cheveux tout mêlés dont les boucles tombaient sur son front, et se leva pour partir.
« Mais mon petit, ce paquet est plus gros que toi, » dit Madame Rose. « Oh, je le porterai bien tout de même. » C'est une commission qu'on m'a donnée pour maman. Et elle ne badine pas, vous savez, avec ça que je suis en retard déjà à cause de ce morceau de bois qui était dans la vase là-bas. »
Le petit Jacques avait un air fort et résolu qui charmait M. de Rethel. Il tira de sa poche une pièce de monnaie pour la lui donner.
« Faites mieux, lui dit Madame Rose, accompagnez-le chez la Thibaude. Vous le soulagerez chemin faisant, et sa mère, le voyant avec vous, ne le grondera pas. »
M. de Rethel prit l'enfant par la main et partit.
« Au pied de la côte, tu me donneras le paquet, » dit-il.
Georges et Madame Rose les suivirent de loin.
« Vous le voyez, » dit-elle, lorsqu'elle fut hors de portée d'être entendue par Canada. « Voilà que mon travail commence. » Je m'efforce de rattacher M. de Rethel à cette solitude où il a peur du repos. Ah, si je pouvais créer autour de lui des liens d'affection et d'habitude.
Mais vous êtes ici bien près de Paris, dit Georges, un peu surpris de la simplicité de la franchise que Mme Rose mettait dans l'aveu de ses projets.
J'y ai bien pensé, reprit-elle. Parfois même j'ai eu quelque envie de profiter d'un jour d'abattement pour lui proposer d'aller dans ce Far West solitaire où la vie agricole a des allures guerrières et le travail un côté aventureux qui séduirait peut-être M. de Rethel. Mais ces jours de découragement et de lassitude ne durent chez lui qu'une heure.
Elle réfléchit quelques minutes.
Ah, que faire cependant pour le tirer de ce milieu où il périra s'il y reste, reprit-elle.
Cette confiance absolue qui faisait que Madame Rose lui parlait comme un frère toucha Georges. Il voulut s'élever à la hauteur de cette âme si fière et si chaste, si compatissante aussi.
« C'est une œuvre difficile, dit-il, mais si je puis vous y aider, comptez sur moi. »
Il souffrait bien en parlant ainsi.
Mais cette souffrance lui était chère quand il la comparait à l'abandon et à l'inquiétude où il avait vécu à Paris. Quand ils arrivèrent à la maison de la Thibaude, ils trouvèrent M. de Rethel en grande amitié avec le petit Jacques, pour lequel il raccommodait une petite charrette de bois avec un petit couteau.
Ben, je ne m'étonne plus si ce bonhomme s'entend si bien avec Canada, dit-il. Ah, le gaillard! Il a gagné cette charrette en se battant à coups de poing contre un enfant deux fois plus âgé que lui. Il prit l'enfant sur ses genoux et l'embrassa.
Tu viendras me voir tous les matins, dit-il.
Et se tournant vers Madame Rose,
je vous laisse la petite fille, reprit-il. Moi, je prends le garçon. Cela vous va-t-il, la Thibaude ?
La Thibaude, qui revendait ses hardes, leva la tête.
Oui, pourvu que je les garde tous les deux, répondit-elle.
Cette première journée se termina par une tasse de thé que M. de Rethel obligea Georges à prendre chez lui. On aurait dit qu'il voulait l'étudier. Une lampe avait été allumée et la bouilloire chantait sur son réchaud. Madame Rose fit qu'elle lut quelques pages d'un livre nouveau à haute voix. Pas un mot de politique ne se glissa dans l'entretien. Georges, qui regardait M. de Rethel, ne pouvait pas croire que ce fût là cet homme dont la réputation avait un tel retentissement. Un paysan d'Herblay cogna à la porte et pria Madame Rose, qui rendait de petits services à tout le monde, de répondre pour lui à une lettre qu'il tenait à la main. Madame Rose poussa la plume et le papier sur la table devant M. de Rethel et le contraignit doucement à écrire.
« Mais je n'y entends rien, » dit le comte, qui mordillait le bout de sa plume.
« Mais lisez d'abord, puis écrivez. Si vous êtes embarrassé, eh bien je dicterai. » Vers 11 heures, Georges se retira. En le reconduisant jusqu'à la porte extérieure du jardin, Madame Rose lui serra la main.
« S'y fera peut-être, » dit-elle.
« Se peut-il que de si grands efforts soient nécessaires pour contraindre un homme à être heureux, » disait Georges. Il ne put pas dormir, mais sa nuit fut paisible. Quelque chose de la sérénité de Madame Rose était descendu en lui. C'était bien encore la même femme, mais il ne la voyait pas sous le même aspect. Un sentiment plus profond de respect se mêlait à son amour. La pensée seulement qu'elle pourrait disparaître un jour lui faisait mal. C'était presque le seul côté douloureux de son cœur. Durant les 2 ou 3 jours qui suivirent cette première rencontre, il vit à peine M. de Rethel. Le tribun ne quittait presque pas un cabinet voisin de la pièce où se tenait Madame Rose. Il était occupé à écrire ou à discuter avec les quelques personnes qui venaient le visiter. Madame Rose recevait Georges avec la même prévenance. Peut-être même pouvait-il remarquer qu'elle mettait plus d'affabilité dans son accueil, comme si elle eût voulu tempérer par sa bonne grâce le mal dont il souffrait. La crainte et l'espérance partageaient le cœur de Madame Rose. Crainte violente, espérance amère, qui la déchirait presque également. Un peu de pâleur était le seul indice qu'on découvrit de ses combats. On entendait quelquefois la voix du comte qui s'élevait dans d'orageuses discussions. Un jour que M. de Francalin était auprès de Madame Rose, ils saisirent au vol ses paroles.
« Que tout le monde soit prêt comme moi, je ne vous demande rien de plus. »
Madame Rose, qui avait reconnu la voix de son mari, regarda Georges.
« La crise approche, » dit-elle. « Oh, mais n'importe, je lutterai jusqu'au bout. »
L'expression qu'il voyait alors sur le visage de Madame Rose la lui rendait plus chère et plus sacrée. C'était l'expression du sacrifice dans toute sa plénitude et sa foi. Georges se sentait meilleur et plus grand auprès d'elle.
bien loin de visiter, moins souvent, ceux qui étaient accoutumés à l'aimer, Madame Rose se montrait fréquemment dans les plus pauvres maisons du village et attirait chez elle tous ceux qui lui devaient des secours ou des consolations. Elle avait mille ruses charmantes pour dérober à M. de Rethel le plus de temps qu'elle pouvait et l'amener à prendre sa part de ses occupations familières. Elle se faisait suivre par lui chez la Thibaude, où elle savait que le babil et l'audace du petit Jacques, qui était toujours en train de guerroyer contre ses camarades, plaisaient au comte, et elle y retenait longtemps. Un soir, que Jacques se balançait au plus haut d'un peuplier où il cherchait à dénicher des pies, Olivier le montra du doigt à sa femme. « Il aurait cet âge, » dit-il. Deux grosses larmes vinrent aux yeux de Madame Rose. Le comte s'éloigna. « Ah !» dit Madame Rose en répondant au regard de Georges. « Oui, c'est le plus amer souvenir de ma vie. Moi aussi, j'ai eu un fils. Oh, il est mort tout petit. J'étais malade déjà. Cette mort faillit me mettre au tombeau. C'est alors que d'autres ont pris sur M. de Rethel cet empire contre lequel je lutte en vain. » Elle cacha sa tête entre ses mains et se mit à sangloter. « Vous ne savez pas ce qu'il me faut de courage pour n'y plus penser, » reprit-elle. « Dès qu'on y touche, la blessure saigne. » M. de Rethel était au pied de l'arbre et recevait Jacques dans ses bras. « S'il eût vécu, qui sait ?» murmura Madame Rose. Georges la quitta remuée jusqu'au fond du cœur. Ce soir-là, il se promena longtemps dans la prairie déserte, cherchant dans son esprit à comprendre comment le mari d'une telle femme avait pu jouer son bonheur domestique, le repos de son foyer, pour le mince plaisir de faire un peu de bruit. Un vent chaud se leva, les étoiles disparurent sous un noir manteau de fumées épaisses. Bientôt la tempête se déchaîna et la pluie tomba à flots, accompagnée de coups de tonnerre. On entendait dans la nuit le craquement des arbres secoués par l'orage. Georges courut vers la Maison Blanche et s'y enferma. Il n'y était pas depuis 2 heures, lisant dans sa bibliothèque et regardant par la fenêtre le feu des éclairs, lorsque 2 ou 3 coups, frappés rapidement à la porte, le tirèrent de sa rêverie. Hé, là-haut, ouvrez, ouvrez donc ! Criait la voix bien connue de Canada. Georges descendit rapidement l'escalier, et le pêcheur parut en compagnie d'un étranger dont les vêtements étaient tout ruisselants d'eau. « Pardon, monsieur Georges, si je vous dérange, » dit Canada. « C'est monsieur qui l'a voulu, et entre nous. Il a fait que me prévenir dans mon idée. Oh, quel temps! C'est pas de la pluie, c'est la rivière qui tombe. » L'étranger se découvrit. « Je viens, monsieur, » dit-il, « vous demander l'hospitalité pour 1 jour ou 2. Me l'accorderez-vous ?» Georges salua le comte de Rethel et le pria d'entrer. « Mais la maison est à vous, » dit-il. « Bon, présent que la promenade est faite, on s'en va, » reprit Canada. « Si l'on doutait que je cours par un temps pareil, merci. Les coquins qui sont à vos trousses seraient bientôt chez moi. » 1 quart d'heure après, Georges de Francalin et Olivier de Rethel étaient ensemble dans la bibliothèque. Le comte était assis auprès du feu, dans le même grand fauteuil que Madame Rose avait occupé. Il regardait la flamme et battait la mesure sur la table d'un air distrait. Ce silence permit à Georges de l'observer. Monsieur de Rethel, qui paraissait avoir 35 ans, et qui était grand et sec, avec des yeux très beaux, noirs comme de l'encre, mais fatigués, avait alors la physionomie contractée et comme éclairée par un sourire amer. Son front, qui commençait à se dégarnir vers les tempes, et son visage, coupé de profondes rides, exprimaient mille sentiments divers que la colère et le dédain dominaient tous. Il était d'une pâleur extrême, mais cette pâleur était animée et vivante et indiquait moins la maladie que l'inquiétude et les accès d'une passion réveillée en sursaut. Le comte avait un grand air et des manières pleines d'aisance, où se mêlait par intervalles quelque chose de débraillé et de violent qui trahissait le gentilhomme déchu. Ce n'était déjà plus l'homme que M. de Francalin avait rencontré chez Mme Rose. C'était un chef de parti en proie à toutes les agitations. Il releva tout à coup la tête. « J'ai des excuses à vous faire, dit-il, pour le sans-façon avec lequel je me suis introduit chez vous. Vous n'y avez pas hésité. Un mandat d'arrêt a été lancé contre moi. Demain, on voudra le mettre à exécution, mais il sera trop tard. Tandis qu'on surveille la route et la station du chemin de fer à Maison, je suis ici, et certes, ce n'est pas chez M. de Francalin qu'on viendra chercher le mari de Mme Rose. » Georges fit un mouvement. « Ben oui, cela vous étonne, ce que je dis là, » reprit Olivier. « Mais c'est précisément parce que je sais, avec tout le monde, que vous aimez Mme Rose, que je me suis réfugié à la Maison Blanche. Là seulement, je n'ai rien à craindre. » « Mais, monsieur, s'écria Georges, parler de sentiments dont je ne vous dois pas l'aveu, c'est offenser celle de qui vous venez de prononcer le nom. Sachez que, si je les éprouve, mon respect les égale tout au moins. »« Qu'est-ce ? » répliqua M. de Rethel avec un air de hauteur. « Me feriez-vous gratuitement cette insulte ? De supposer que je serais dans cette maison, si j'avais eu la sottise ou la lâcheté de soupçonner Madame de Rethel un instant? Ah, monsieur, vous ne le pensiez pas. Je vous estime parce que Madame de Rethel vous aime. » Ce dernier mot laissa M. de Francalin sans réponse. « Oui, monsieur, poursuivit Olivier. Cela m'a donné de votre caractère une opinion que vous méritez certainement. Si vous pouviez apprécier comme moi ce que vaut Madame de Rethel, vous me comprendriez. » Un coup de vent ébranla les volets et la pluie frappa les vitres à flots. Monsieur de Rethel se mit à rire. « Oh, je plains les pauvres diables qui sont à m'attendre sur la route, » dit-il. « Les niais ont cru que le coup était pour demain. Ils savent pas leur métier. Quand ils verront que rien ne bouge, ils se tiendront tranquilles. » Et l'émeute fera explosion. Priez Dieu seulement que nous ne réussissions pas. » Georges regarda M. de Rethel avec étonnement. « C'est vous qui parlez, vous ? » dit-il. « Eh oui, c'est moi, et je parle ainsi, parce que je les connais mieux que vous, ces gens avec qui je marche. Ah, quelle race ! Les imbéciles même sont mauvais, jugez les autres. Mais alors, puisque vous les connaissez si bien, pourquoi rester avec eux ? Pourquoi ? Oh, voilà la grande question ! » s'écria le comte en frappant du pied. « On est dans un courant, on suit le flot. Le pas qu'on fait la veille est la cause du pas qu'on fait le lendemain. Et on va jusqu'au bout. Si je m'arrêtais à présent, on dirait que j'ai peur ou que je me suis vendu, que sais-je. Et je marche. La queue pousse la tête. » « Si j'osais, je vous adresserais bien une question, monsieur le comte, » dit Georges, avec une certaine hésitation. « Ah, une question, je la lis dans vos yeux. Oui, cela vous surprend que moi, de race noble, un privilégié de la naissance, comme ils disent, un aristocrate, enfin, j'ai pu descendre jusqu'à cet enfer. Si je vous disais quel misérable motif m'y a poussé, vous ne me croiriez pas. » Moi aussi, j'ai voulu faire un peu de bruit. Vous vous souvenez de M. de Mirabeau, marchand drapier, élu député par le tiers-état? J'ai marché sur ces vieilles brisées. Un auditoire de quelques centaines de niais m'a applaudi, cela m'a grisé. Je m'étais endormi membre de l'opposition, je me suis réveillé démocrate, révolutionnaire, que sais-je. La pente est si rapide
et la vanité a le pied si complaisant pour glisser. » Un amer dédain crispait les lèvres de M. de Rethel. « Bah !» reprit le mieux, « je ne puis y penser. »
« Non, répondit Georges avec force, le mieux serait d'y penser pour en finir. Je ne comprends pas pourquoi, ayant l'énergie que je vous suppose, vous ne rompriez pas brutalement avec votre entourage.
« Et le puis-je ? » s'écria le comte. « Tenez, je m'étais réfugié à Herblay, le cœur plein de dégoût. Chose étrange, je m'obstinais à ne pas entrer dans l'exécution des projets qu'on me présentait. Et c'est alors qu'on se souvient de moi pour me traquer. À présent, mon acceptation est partie avec Canada. Et je ne regrette pas. J'en veux à tout le monde de mon insuccès et de ma sottise. Il y a des bouillonnements de colère et de haine dans mon cœur quand je vois ce que je suis. Ah, ce prestige d'un rôle à jouer, vous savez pas ce que c'est.
Monsieur le comte, reprit Georges, en me répondant tout à l'heure, vous n'avez vu qu'un côté de la question. Il en est un plus délicat que j'aborderai hardiment. Vous aviez une femme.
Le front d'Olivier se voila tout à coup.
Ces observations, ces conseils, ces prières ne m'ont pas manqué, dit-il. Elle a vu plus juste et plus loin que moi, mais alors j'étais aveugle. J'ai repoussé ses avis avec hauteur au commencement. Parce que je ne me croyais pas un grand homme. Elle a persisté, oh, j'y ai répondu avec violence. Ce n'est pas que je ne l'aimasse beaucoup, mais en répousant, il me semblait, étrange contradiction, que je lui avais fait un grand honneur. Elle était fille d'un manufacturier et partant de race plébéienne. Explique qui pourra cette logique d'un ami de l'égalité et d'un tribun du peuple. Ma maison fut bientôt pleine d'un monde bizarre, où ce n'étaient pas les vanités froissées et les ambitions impatientes qui manquaient. Pour plaire à ces hommes dont j'étais le chef, je contractais quelques-unes de leurs habitudes. Rose s'en aperçut et me le fit sentir. Je voulais bien que cela fût, mais je ne voulais pas qu'on le vît. Irrité contre moi, je le fus contre elle. Une femme qui prêchait l'indépendance et qui la pratiquait se trouva sur mon passage. Elle était jeune et séduisante. Le temps que la révolution, alors dans toute sa fièvre, ne me prenait pas, lui appartint bientôt. Et un jour, Rose me demanda la permission de se retirer. Je crus voir dans ses paroles un reproche sur le fol emploi que j'avais fait de sa fortune. Et j'ai bien pu voir, depuis, qu'elle n'y avait pas songé. L'orgueil dicta ma réponse, et elle partit pour Herblay. Ce fut ma perte. Mais si elle avait pu s'inspirer de ma conduite et m'imiter, je l'aurais tué. Après ce que vous aviez fait, vous l'auriez tué ? S'écria Georges.
Oui, sans hésiter. Oh, cela vous paraît monstrueux. Je puis bien me l'avouer à moi-même, mais je n'entends pas qu'on me le dise.
Vous permettez tout au moins qu'on le pense. Monsieur de Rethel regarda Monsieur de Francalin. Il était fort pâle.
« Ne m'obligez pas à me souvenir qu'il y a eu des heures où je vous ai haï autant que je vous estimais. »«
Oh, s'il vous plaît de vous en souvenir, faites-le, » dit Georges froidement. Le comte fit un pas, puis frappant du pied.
« Oh, je suis fou !» reprit-il presque aussitôt. « J'avais donné mon nom à Madame de Rethel, elle ne pouvait pas faillir. »
Olivier tendit la main à Georges avec un mouvement plein de noblesse.
« Alors, oubliez ce que je vous ai dit, » poursuivit-il. « Ce qui m'irrite, voyez-vous, c'est que je vois qu'avec vous, elle aurait été heureuse. »
Monsieur de Rethel passa la main sur son front.
« Croyez-vous à la destinée ? »
dit-il brusquement. Et sans attendre la réponse de Monsieur de Francalin,
« Bien, moi, j'y crois, » reprit-il.
Autrefois, j'aurais été condottiere et ou capitaine d'aventure. Il y a dans mon esprit un fond d'inquiétude que rien ne peut calmer. Il faut bien que cela soit, puisque Madame de Rethel n'a pu en éteindre les folles ardeurs. Et là où elle a échoué, rien ne peut. La pendule sonna 3 heures. Monsieur de Rethel allait et venait par la bibliothèque, regardant par la fenêtre, où l'on voyait les premières lueurs du jour naissant. Pâle, agité, fiévreux, l'œil tout en flammes, le geste violent, l'allure saccadée, rompant sa parole comme sa marche, il laissait voir à nu un mélange incroyable d'aristocratie et de cynisme, où le gentilhomme et le conspirateur se montraient tour à tour avec la même crudité. Il faisait grand jour quand M. de Rethel gagna la chambre que Georges lui avait fait préparer. Il dormit profondément jusqu'à midi. Il déjeuna de grand appétit et parcourut les journaux. « Oh, oh !» dit-il. « Oh, le bruit court que je suis arrêté !» Vers le soir, Tambour revint d'une promenade avec un papier caché dans son collier. M. de Rethel était averti de se tenir prêt à partir le lendemain. On avait fait une visite domiciliaire à la maison d'Herblay dès le matin et on était convaincu qu'il était rentré dans Paris. Les manières et la physionomie du comte étaient déjà changées. Il ne restait plus rien de la violence et de l'âpreté qu'il avait montré la veille. À le voir, on l'eût pris pour un homme du meilleur monde en visite chez un voisin de campagne. Jamais son regard n'avait été plus tranquille et sa mise plus soignée. Il s'assit devant la table et écrivit quelques lettres. Quand il eut fini, il regarda Georges. « J'avais quelque envie de vous prier d'inviter Madame de Rethel à dîner, » dit-il. « Oh, le voulez-vous ?» dit Georges. « Elle sera ici dans un instant. »« Non, non, j'ai réfléchi. Ce serait imprudent, et puis je craindrais de m'attendrir. Il pourrait se faire que je ne la revis jamais. » Georges posa sa main sur le bras du comte. « Il en est encore. Vous avez une femme qui mérite tout le cœur, toute la vie d'un homme. Arrêtez-vous !» Les yeux de M. de Rethel parurent s'humecter. « C'est vous qui m'avez mis engagé ?» reprit-il. « Oui, et du plus profond de mon âme, pour elle, pour vous. » Olivier lui serra la main. « Bon, pour moi, c'est possible. » « Pour elle, il secoua la tête et sourit. « Il est trop tard. N'en parlons plus, » dit-il. Il prit un papier sur la table, y ajouta quelques mots et le cacheta. « Ceci est mon testament, » poursuivit-il. « Si je viens à mourir, vous le remettrez à Madame de Rethel. C'est vous que je charge de mes dernières volontés. » « Eh bien, je ne vous connaissais pas, il y a 8 jours, et un mot vous a fait mon ami. » Il se promena quelques instants en silence. Une nuance de tristesse adoucissait le caractère inquiet et hautain de sa physionomie. « Si j'avais à vous parler une dernière fois, où pourrais-je vous voir à Paris ?» reprit Olivier avec une sorte d'hésitation. Georges lui tendit sa carte. « Rue de Clichy, 29, » dit-il. « Je serai samedi chez moi toute la journée. »« Bon, voulez-vous y être vendredi ? Vous me ferez plaisir. »« Bon, volontiers. » Ce dernier mot fit comprendre à Georges que l'avènement auquel Olivier avait fait si souvent allusion devait éclater vers la fin de la semaine. On était alors au lundi. Georges demanda franchement au comte, qui fit un signe de tête affirmatif en ajoutant « Vous n'en parlerez pas à Herblay !» Il prit différentes lettres qu'il tira d'un portefeuille caché au fond du caban que lui avait prêté Canada et les jeta au feu après les avoir parcourues. « C'est une partie perdue, » murmura-t-il à demi-voix, « cependant, qui sait ?» Le lendemain, au point du jour,
on entendit siffler sous les fenêtres de la Maison Blanche. C'était Canada qui passait en donnant le signal du départ. M. de Rethel fut prêt en un instant. Au moment de quitter cette maison dans laquelle il avait dormi, tranquille comme un voyageur entre deux étapes également rudes, il pressa la main de Georges avec émotion. « Je vous recommande, Madame de Rethel, » dit-il. Jamais son visage n'avait paru plus bouleversé. Il s'arrêta sur le seuil de la maison et regarda du côté d'Herblay. Puis il fit de la main le geste d'un homme qui prend son parti et sauta sur le chemin.